Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Rebecca et j'ai un message pour vous ce matin. Donc, Pasteur John m'a donné le privilège de pouvoir m'adresser à vous. Et c'est vrai qu'avec mon mari Philippe, on voyage pas mal. Donc, on était en déplacement récemment. Mais quelle joie de rentrer à la maison. C'est tellement beau de vous retrouver, de retrouver la louange. Et c'était fantastique ce matin de pouvoir revenir à la maison et adorer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Amen. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'église qu'on est ailleurs, parce qu'on est souvent dans d'autres églises. Et un petit quelque chose à la maison, en plus, toujours, n'est-ce pas? Donc, j'ai un message pour vous ce matin. Et c'est un message assez simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Comme, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien trouver des choses pour me forcer à me détendre et me relaxer. Vous connaissez les sudoku? Les petites grilles avec 9 petites cases. Et c'est assez simple. Il faut mettre des chiffres de 1 à 9 dedans. Ça se complique un petit peu parce qu'il manque pas mal des numéros et il faut compléter. Donc si vous ne connaissez pas, on va vous trouver un exemplaire pour que vous puissiez voir. Le concept est simple, mais il y a des niveaux de difficulté. Et avec ce message, ça va être assez simple, en théorie. Après la mise en application, c'est de votre côté que la balle tombe, si vous voulez. C'est comme, il est facile de comprendre qu'il ne faut pas se borner à écouter la parole. Mais ce n'est pas toujours aussi facile d'appliquer la parole qu'on lit, n'est-ce pas? Ou est-ce que de suite, depuis votre conversion, vous étiez entièrement rempli de paix, tout le temps à 100%, rempli de joie, rempli de compassion, rempli de bienveillance envers les gens qui vous coupent la route? Ah ouais, là, dès qu'on parle de conduire, c'est différent. Hein. Et ce que je viens de dire est directement en lien avec le message. La compréhension peut être facile. Mais la mise en application, peut-être un peu plus un défi. Parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Médite la promesse et pas le problème ». Et donc là, la balle est dans votre camp. Donc tout au long de l'été, on a étudié avec Pasteur John un certain sujet. Je ne sais pas si vous connaîtriez le titre du sujet qu'on a étudié toute la semaine. Je cherche à grandir. Il y a quand même eu 9 différents messages sur cela et je suis sûre qu'il aura encore plus en arrivant. Mais dans « Je cherche à grandir », on est en train de voir comment on peut grandir spirituellement, n'est-ce pas? Et donc, il nous a donné différents pas, il nous a donné 5 pas pour nous aider à grandir spirituellement, basé sur 2 versets. Donc, le premier est Josué 1,8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Entre parenthèses, pas que ce qui vous plaît. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le deuxième verset sur lequel il avait basé ceci, c'était Romains 8, 14 et 16, qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, petit récapitulatif, les 5 points qu'il avait donnés pour pouvoir grandir spirituellement. Le premier était « Parler la parole de Dieu ». Deuxièmement, « Méditer la parole ». Troisièmement, « Mettre la parole en pratique ». Quatrièmement, « Laisser primer la parole ». Et cinquièmement, obéir à la voix de votre esprit. Donc, si vous voulez entendre plus sur tout cela, vous pouvez retourner écouter tous les messages sur le site de l'Église. Ils sont tous à disposition gratuitement. Mais moi, je vais vraiment appuyer sur le deuxième, qui est méditer la parole. Parce que souvent, on entend méditation, on se dit « Ah, méditation transcendantale, il faut que je trouve une pièce assez épurée, assez, avec des couleurs assez feng shui, je me mets dans une position spéciale, je mets une musique, et ensuite, je vais vider mon esprit. » Donc moi, je n'arrive pas à croiser les jambes comme font. Mais la méditation chrétienne n'est pas du tout comme cela. Parce que lorsqu'on vide notre esprit, il y a toujours quelque chose qui va venir. Donc nous devons nous assurer que lorsqu'on ne va plus méditer les problèmes, qu'on va commencer à méditer les promesses. Amen. Donc, je ne connais pas les situations que vous traversez actuellement. On arrive dans un changement de saison, c'est la fin de l'été, et la plupart sont déjà partis en vacances, il y en a encore qui attendent septembre pour partir. Mais c'est vrai qu'au mois de septembre, il y a toujours beaucoup de changements, n'est-ce pas? Changement de saison, oui, mais changement, il y a la reprise des cours, des nouvelles classes, des nouvelles écoles, peut-être des nouveautés au travail, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez déménagé ici sur la côte, il y en a qui trouvent des nouveaux appartements. Peut-être votre situation, elle est financière en ce moment, et c'est ça ce problème que vous méditez. Peut-être c'est le salut d'un membre de votre famille, peut-être c'est la santé, une situation professionnelle ou votre logement. Mais mon message pour vous, peu importe votre situation ou votre problème, c'est médite la promesse et pas le problème. Amen. Et on va prier pour inviter le Saint-Esprit, parce que peu importe votre situation, lui la connaît. Mais je n'ai pas besoin de la connaître. Parce que le Saint-Esprit, lui, peut illuminer la parole et vous donner les promesses, vous montrer les promesses que vous avez lues qui vont répondre à votre problème. Amen. Et donc, j'ai vraiment à cœur que ce soit lui qui vienne vous toucher et vous parler personnellement ce matin. Donc, prions. Oh, merci Père Céleste, parce que nous avons ce privilège, nous avons cette grâce, cet honneur de pouvoir entrer dans ta présence, de pouvoir venir communier et communiquer avec toi. Merci tellement d'avoir envoyé Jésus pour qu'on puisse avoir cet accès libre devant toi, Père Céleste. Et merci Jésus d'avoir envoyé le Saint-Esprit, l'enseignant, le consolateur, notre aide, qui est là pour nous aider à marcher selon tes voies et tes préceptes, qui est là pour nous aider à mettre en pratique la parole et pas nous borner à l'écouter. Et Saint-Esprit, je demande que pour chaque personne ici présente, oh, que tu viennes les toucher, que tu leur parles, que tu mettes le doigt avec ta douceur et ta tendresse sur cette zone de leur vie où ils ont besoin de changer leur façon de penser et ils ont besoin de commencer à méditer la promesse et non pas le problème. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc comme nous avons vu en Josué 1, je vous invite à y tourner, en Josué 1, Dieu demande à Josué de reprendre la responsabilité du peuple d'Israël. Donc ce n'est pas juste reprendre la responsabilité d'un petit groupe de personnes. C'était un groupe de personnes assez considérable. Et Josué était présent pendant 40 ans en train de voir Moïse subir un petit peu les aléas de ce peuple. La Bible dit que c'était un peuple au cou raide qui murmurait, se plaignait et qui créait beaucoup de problèmes. Et Dieu dit, ok Josué, c'est toi qui prends la relève. Et non seulement tu vas les emmener dans la terre promise, mais il va falloir se battre contre toutes les différentes populations qui sont sur place et conquérir ce territoire. Donc c'est déjà assez difficile de gérer un peuple qui sont sur place et que ça va, tout va assez bien. Mais là, il faut être en plus dans une position de se défendre et d'attaquer. Donc Josué est un petit peu pris de panique. Et des fois, quand on est face à une situation, on peut être un peu pris de panique, dépendant de l'amplitude de ce qu'on a en face de nous. Mais regardons ce que Dieu dit à Josué. Donc Josué 1, versets 6 à 9. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Il l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Quand on répète quelque chose, ça veut dire « j'aimerais bien que tu écoutes. J'aimerais bien que tu fasses attention à ce que je dis là. Fortifie-toi et prends courage. » Ne t'effraie pas, point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit à Josué de méditer la parole jour et nuit? Parce que souvent les pensées, les inquiétudes, les soucis, ils viennent quand on est dans des moments plus vulnérables. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais personnellement, mes journées sont assez speed. Je suis constamment en train de faire quelque chose. Je discutais avec un jeune homme l'autre jour. Il dit, oui, mais moi, faire multiples choses en même temps, j'arrive pas. Il faut que je fasse une chose à la fois. Donc, certains disent que les femmes sont très douées dans multitâches et que les hommes, ils sont très doués à faire une chose très bien à la fois. Donc, chacun ses qualités. Et moi, je fais beaucoup de choses en même temps. Que ce soit bien ou pas, bah, j'apprends à mieux négocier, à mieux créer des limites. Mais en tout cas, lorsque la nuit arrive et j'ai tout posé, j'ai posé mon livre, j'ai posé les choses, qu'on éteint la lumière et que je m'endors, là, toutes les choses que je n'ai pas faites arrivent. Non ? Ou toutes les choses que j'aurai à faire demain ou qui sont à venir, c'est comme un déluge de toutes les choses que j'ai à faire. Et c'est là que l'ennemi essaie de venir et dire « Mais t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. » Et il y aura peut-être des pénalités pour ceci ou cela. Et il y a ton frère qui se marie, il faut faire préparer tout cela. Et toi, tu vas déménager, il faut faire cela. Et il y a la reprise des éditions Victoire, il faut que tu t'occupes de cela. Et toutes et toutes et toutes les choses. Ou je suis la seule. D'accord. C'est pour ça qu'il s'est écrit « Médite jour et nuit. » Parce que l'ennemi essaie d'attaquer quand on est vulnérable. Et si on permet à ses pensées de s'infiltrer et de rester, on peut faire des nuits blanches. Et certains d'entre nous l'ont déjà fait. Mais Dieu veut nous donner du repos. Et on va le voir. Donc, il a dit de le méditer jour et nuit. Pourquoi ? Parce que la méditation des promesses produit la foi. Et c'est ça dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? On a besoin de la foi pour agir, pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Comme on a vu en Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc certains disent, « Pasteur, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de plus de foi. » Et notre pasteur, vous l'a peut-être déjà dit, il va dire, « Tu veux plus de foi ? Lis ta Bible. » Pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut prier pour vous, on peut s'unir, s'accorder, lorsque vous savez sur quoi vous vous basez. Les quelques semaines passées, Pasteur John vous a mis au défi. Il a dit, « Quels sont vos versets pour la finance, pour la santé, pour la famille, pour le travail, pour le logement ?» Et il m'a dit de rajouter, et pour votre vie spirituelle. Donc j'étais en train de discuter avec quelqu'un de l'assemblée cette semaine, il m'a dit, moi j'ai tous mes versets. Et après il a dit, oups, c'est toi qui prêches ce dimanche, il ne faut pas que tu m'appelles sur les strates pour que je dise mes versets. Donc je lui ai promis de ne pas le faire. Ah, je te dirai qui c'est après Fadi, là tu pourras aller lui demander. Mais c'est vrai que c'est pas pour vous faire une interro surprise. C'est pas pour nous qu'on vous demande de faire ça, c'est pour vous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si vous n'avez pas une encre solide, si vous n'avez pas un verset, une promesse sur laquelle vous vous appuyez, alors votre foi elle est flottante. Elle est ballottée par les vents. Donc nous avons besoin des promesses. Donc la méditation de la promesse produit la foi. Mais la méditation des problèmes produit l'inquiétude. Et nous avons besoin tous de prendre des décisions régulièrement. Même pas hebdomadairement, quotidiennement, voire même peut-être plusieurs fois dans la journée, de ne pas s'inquiéter. Donc en changeant notre façon de penser, en disant non, je vais méditer la promesse et non pas le problème, on fait déjà un grand pas en avant. Tournez avec moi en Matthieu 6. On aime bien les paraboles de Jésus, n'est-ce pas ? On aime bien les différentes histoires et je trouve ça super parce qu'il expliquait, donc il donnait des paraboles à tout le monde et ensuite aux disciples, il leur expliquait les paraboles. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les paraboles, étant bon chrétien, rempli du Saint-Esprit, on se dit toujours que nous, on est dans le meilleur des cas cités, n'est-ce pas ? Nous, on est celui qui a fait fructifier son talent et qui en a passé de 5 en a fait 10, n'est-ce pas ? Ça, c'est nous. Ok. En Matthieu 6, il y a la parabole du semeur. Parce que selon Jésus, la foi et l'inquiétude ne font pas bon ménage. Donc en Matthieu 6, et la parabole, c'est de 28 à 31. Non, la parabole est un peu plus loin, excusez-moi. C'est en Marc 4. La parabole en Marc 4. Marc 4. Et versets 18 à 19. Donc, on parle du bon terreau. Et dans le bon terreau, on dit toujours, mais je suis le bon terreau. Je reçois la parole, elle produit du fruit, et tout va très bien. Mais regardez 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, donc pas du siècle de l'époque, mais les soucis de notre siècle, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc la méditation du problème produit l'inquiétude, et l'inquiétude rend notre foi infructueuse. Donc tout comme on a entendu plus tôt dans la journée, peut-être qu'on se dit, mais moi je fais ceci, moi je fais cela, je donne ma dîme, je suis fidèle à l'église, je suis impliquée, je sers, mais je ne vois pas de fruits. Une des clés peut-être celle-ci. Est-ce que vous êtes constamment en train de vous inquiéter par rapport à ces choses ou avez-vous réellement déposé vos soucis? Et il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question, parce que nous ne sommes pas dans vos pensées. Mais Dieu connaît votre cœur et il peut peut-être être en train de mettre le doigt dessus. On va justement retourner en Matthieu 6 et on voit ce que Jésus dit par rapport à l'inquiétude. Donc Matthieu 6, versets 28 à 31, il dit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu, Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas comment mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Et on connaît la suite. La suite qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, verset 33, vous seront données par-dessus. » Il dit « Ne vous inquiétez pas. » Ne vous inquiétez pas. Parce que si on s'inquiète, on n'est pas dans la foi. Et donc c'est ou l'un ou l'autre. Donc, nous savons que l'inquiétude produit, la méditation des problèmes produit l'inquiétude et l'inquiétude rend la foi infructueuse. Mais nous savons que nous avons besoin de foi, n'est-ce pas ? En général, c'est une des plus grandes requêtes de prière. Dieu, donne-moi plus de foi. Parce qu'on sait qu'il est écrit en Hébreux 11 que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voulons tous être agréables aux yeux de Dieu, n'est-ce pas ? Nous voulons tous être en paix avec Dieu, être qu'on arrive devant lui et qu'il dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la plénitude de ton maître. » Et nous savons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas ? Donc comment est-ce qu'on peut changer notre façon de penser ? C'est notre décision. Qu'est-ce que nous, on va nourrir ? Vous savez, quand Pierre était dans le bateau, lors de la grande tempête, et que Jésus t'a paru en train de marcher sur les eaux, Jésus, il dit, « Seigneur, si c'est toi, dis-le-moi, et je viens, je marche sur les eaux. » Et Jésus a dit, « Viens. » Et tant qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, tant qu'il a gardé les yeux fixés sur la promesse, il a marché sur l'eau. Et puis, dès le moment où il a commencé à regarder les circonstances, il a vu que la mer, la tempête rageait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu peur. Il était dans l'inquiétude, et c'est là qu'il a commencé à couler. Donc, la seule personne qui peut activer ta foi, c'est toi. Tout comme la seule personne qui peut activer ta peur, c'est toi. La question, c'est quelle est la chose que tu nourris le plus ? Je connais un homme, j'ai rencontré un homme, et il est terrifié de prendre l'avion. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle. Mais ce cher monsieur regarde des films de crash aérien. Il ne faut pas regarder ça. Surtout pas si vous êtes dans l'avion. Parce qu'on peut regarder des films dans l'avion. Mais si vous nourrissez votre crainte, je suis désolée, mais c'est vous qui la nourrissez. Donc, c'est à nous de décider. Donc, ce que vous allez nourrir, ce qui va venir en vous, c'est ce que vous méditez. C'est ce que vous croyez et c'est ce que vous allez déclarer. On l'a déjà entendu à plusieurs reprises. Ah oui, mais toutes les années, j'ai ce rhume des foins qui revient. Ben, c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu crois, donc c'est ce que tu vas avoir. Et il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc en clair, l'inquiétude ne plaît pas à Dieu. Tournez avec moi en Proverbe 3. Proverbe 3. Il y a des films des fois qui sont très bien faits, ils sont très beaux. Mais après, tu regardes le message derrière ou ce qui se passe, tu te dis, mais j'ai pas envie de me nourrir de ça. J'ai arrêté de regarder des films où il y a des attaques de requins. Pourquoi ? Parce que j'ai un mari qui fait du surf. On est parti faire du surf à La Réunion, justement. Et donc, la zone où il y a une attaque de requins, on y a fait du surf tous les deux. Moi, j'ai pas été attaquée par le requin, mais par l'oursin. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais... il ne faut pas se nourrir de ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que nous devons croire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et qu'il me guide dans des sentiers de verts pâturages, près des eaux paisibles. Donc si on médite les promesses plutôt que les problèmes, on va déjà bien avancer. En Proverbes 3, versets 5 et 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Celui qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Et c'est vrai que souvent, on commence avec la méditation du problème. N'est-ce pas ? Et on va voir un exemple dans la Bible qui a fait cela. Et c'est quelqu'un qu'on appelle le père de la foi. Donc regardez avec moi en Genèse. Genèse 13. Genèse 13. Et on va voir Abraham. Donc Abraham n'est pas quelqu'un qui a grandi dans une famille, on lui a enseigné par rapport à Dieu, on lui a présenté Dieu. Abraham, c'était un des premiers à avoir une interaction avec Dieu. Il avait entendu peut-être des générations passées, mais Dieu lui a quand même dit, quitte toute ta famille, quitte ton pays et va dans l'endroit que je te montrerai. Donc, ce n'est pas comme nous, de nos jours, on peut aller sur Internet ou se prendre un plan. On était en route pour la Suisse l'autre jour, on regarde sur le plan si on se perd ou si on veut savoir où on va aller. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein. Il n'y avait pas de plan. Et il va, il fait confiance à ce Dieu. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il est allé là où Dieu l'a mené, même qu'il ne savait pas pourquoi ou ce qu'il allait faire, en Genèse 13, versets 14 et 16, Dieu lui montre pourquoi il l'a mené là-bas. Donc verset 14, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, donc il avait obéi jusqu'à ce point-là, il avait emmené jusqu'à ce point-là, du lieu où tu es maintenant, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Sachez que lorsque Dieu lui a dit cela, Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Ils n'en avaient eu aucun. Donc Abraham, homme naturel, il commence à se dire, mais oula, ma postérité comme la poussière de la terre, il faudrait au moins que je commence à en faire un. Raison logique, non ? Faut déjà s'activer dans le naturel, peut-être. Et ça ne produisait pas de fruits. Donc au fur et à mesure qu'il méditait le problème, regardez avec moi en Genèse 15, 1 à 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Donc il réitère la promesse. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » C'était un membre de la famille éloignée. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Donc Abraham a médité la promesse et comme beaucoup d'entre nous, alors qu'on médite la promesse, on trouve une façon naturelle ou une façon à nous de résoudre le problème. Mais lorsque Dieu vous a donné une promesse, il y a une manière surnaturelle de résoudre le problème, qui va dépasser ce que peut-être vous pouvez concevoir ou ce que vous pouvez faire dans le naturel. Parce que le résultat d'Abraham méditer la promesse, c'est qu'Agar est tombée enceinte. De méditer le problème, excusez-moi. Il n'y en a qu'un qui a réagi. Le résultat du problème, c'est qu'Agar est tombée enceinte d'Ishmaël. Mais Dieu revient en Genèse 17 et Dieu fait alliance à nouveau avec Abraham. Il réitère la promesse et il précise la promesse. Donc Genèse 17 et verset 21. Il dit, « J'établirai mon alliance avec Isaac. » Donc il a quand même dit qu'il allait bénir Ishmaël. Pourquoi ? Parce que Dieu ne va pas maudire un enfant simplement parce qu'il est né au mauvais moment de la mauvaise saison. Ça, c'est bon de se le rappeler. L'enfant n'est pas en cause. Mais en 21, il dit, « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Donc juste avant le verset 20, vous pourrez le lire tranquillement, il parle d'Ishmaël, mais après il dit, « Non, il y aura Isaac, et ce travers d'Isaac que j'ai promis que je vais te bénir et que je bénirai ta postérité. » Et donc ensuite, parce que dans une histoire de couple pour avoir un enfant, il y en a toujours deux. Donc Sarah a médité le problème. Sarah a médité le problème en Genèse 18, versets 11 à 15, qui dit « Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu, de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Donc lorsqu'on a essayé de résoudre le problème à notre manière, nous, on essaie de le cacher un peu après. Hein. Donc Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri !» J'ai pas médité le problème, j'ai pas essayé de le résoudre à ma façon, à moi. Car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Nous voyons par la suite qu'il y a eu la manifestation de la promesse, que Dieu a pourvu. En Genèse 21, 1 et 2, il dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Il y a un temps pour tout, mes amis. Et parfois, on se dit « Pourquoi ça n'arrive pas maintenant ?» Mais il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où on doit simplement faire confiance à Dieu. Et c'est difficile, surtout si vous êtes de nature entreprenante et vous avez envie de faire des choses. Oui, Dieu nous rend capables de faire ce qu'il nous appelle à faire. Mais il y a une phase où on doit faire tout ce qu'il nous a demandé de faire dans le naturel et ensuite simplement se mettre dans ses bras et croire et mettre notre confiance en lui que lui va pourvoir et qu'il va faire sa part. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, comme ils disent, notre Père céleste est fidèle. Il nous l'a déjà prouvé. Et je suis sûre que je pourrais demander à chacune des personnes ici, et vous pourrez me dire plein de différentes histoires où Dieu a pourvu. Et parfois, c'est bon de les noter, parce qu'on oublie trop facilement. Donc, tournez avec moi à Philippiens 4. Comme j'ai dit, ce message est assez simple, mais facile. À vous de me le dire. Philippiens 4, versets 6 à 7. Et ce passage-là, vous le connaissez. Mais c'est là la mise en défi. C'est est-ce que vous allez commencer à méditer ces promesses sur ces différentes zones de votre vie? Est-ce que vous allez commencer à vraiment lui faire confiance? Philippiens 4, versets 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Donc il y a trois aspects, trois choses que j'aimerais souligner dans ce passage. Premièrement, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » En d'autres termes, ne méditez pas le problème. Ça commence avec ça. Pourquoi ? Parce que tant que le problème est là-dedans, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Donc ne méditez pas le problème. Deuxièmement, il dit « Faites connaître vos besoins à Dieu. » Présentez-lui par des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce. Rappelle-toi des promesses. Lorsque tu viens déposer, tu viens lui dire ce qui se passe, tu viens lui demander d'agir dans tel ou tel domaine, après laisse la situation avec lui. La reprends pas avec toi. Parce qu'on le fait souvent. Ok, le dimanche matin, je viens, je dépose tous mes fardeaux, mes soucis, et ensuite, je repars avec. Et lundi matin, oh, comment je vais faire? Des fois, c'est même pas lundi matin, des fois, c'est à midi, en route pour la maison. Oh, c'est vrai, il y a cette situation-là, qu'est-ce que je vais faire? Mais lorsqu'on se rappelle des promesses de Dieu, on arrête de s'inquiéter, on prend la décision, parce que c'est vous qui contrôlez vos pensées, hein. On peut pas vous dire, il faut réfléchir à ci, il faut penser ceci et cela. Vous êtes le maître de cet être. Mais rappelez-vous, ce n'est pas votre âme qui commande votre être, c'est votre esprit. Et votre esprit dit à votre tête ce qu'elle peut penser. Mais si vous ne lui dites pas, elle va partir dans les inquiétudes, dans les soucis. Et c'est une fois qu'on a prié, qu'on a présenté ses requêtes devant Dieu, ensuite la paix vient. Et c'est ça qu'on désire, n'est-ce pas? Le monde entier court après la paix et désire une paix, que ce soit intérieure, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le monde. Donc la paix vient, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient été là les dernières deux semaines, je pense que vous avez entendu qu'on a dû partir d'urgence juste au-dessus de la Suisse, à Montbéliard. Et vous savez, c'était une situation d'urgence. Donc le père de mon mari, mon beau-père, était dans un coma. On a eu le coup de fil vendredi, donc samedi matin, à 8h du matin, on a pris la voiture, on est parti. Et mon désir, c'était qu'on arrive dès que possible. Et je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans les embouteillages et que mon mari soit frustré et qu'on ne sache pas s'il soit encore là ou pas quand on arrive. Parce que les médecins ont dit que son état était très critique. Et on s'est quand même pris 5 heures d'embouteillage. Donc une route qui aurait dû prendre 7 heures, on en a pris 14. Donc on est arrivé à Montbéliard à 22h10, presque à la minute. On est arrivé 14h plus tard. Et je peux vous dire que là, c'est de sa tournée, parce qu'on ne voulait vraiment pas arriver trop tard. Nous voulons arriver pour qu'on ait la paix, qu'on ait l'assurance de savoir où il allait partir s'il partait. On était là, je dis à mon mari, je dis, tu as la foi, pourquoi ? Qu'est-ce que tu crois ? Et je m'accorde avec toi. Et donc on est arrivé, donc il n'y avait personne, c'était un service assez intensif. Et les infirmières étaient tous dans un secteur, donc on avait la chambre, ils nous ont permis de rentrer parce que c'est son fils. Et on est dit qu'on est venu pour l'administrer des soins pastoraux. C'est aussi notre rôle et notre responsabilité. Et donc, on est allé, on a prié, on a lu la parole et on a vu, mais confirmation après confirmation. Il nous a serré la main, il a levé la main, il bougeait les pieds, alors qu'il était dans un coma. Et on est arrivé à un certain stade et on a dit, c'est bon pour ce soir. Et donc, on a eu la confirmation des médecins qu'on pouvait revenir le lendemain matin, alors que les visites, c'est l'après-midi. Donc, on est rentré, on a trouvé une chambre d'hôtel à 2h du matin et on voyage beaucoup. Donc on sait que la première nuit dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, on arrive dans la chambre, on prie, on bénit la chambre, mais on sait que des fois on dort un petit peu, l'oreiller n'est pas parfait ou ceci, il y a différentes choses, voilà. Mais la nuit de sommeil qu'on a eue était exceptionnelle. Tous les deux on s'est réveillés le lendemain matin avec très peu de sommeil, mais entièrement rafraîchis. C'était une paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'on avait quand même eu une semaine très chargée. Il y avait déjà beaucoup de fatigue émotionnelle due à la semaine qui avait précédé. Mais il y avait une paix qui surpassait toute intelligence. On est retourné à l'hôpital. Mon mari a un coup de fil de son frère. Et il a dit que pendant la nuit, il a eu un rêve donc de leur papa. Et dans le rêve, son père avait un visage rempli de paix et de joie. Il avait encore les yeux fermés et que toute la chambre était illuminée, comme si la présence de Dieu était là. Et ça nous a amené tellement une joie, parce qu'on n'avait pas eu le temps de communiquer entre-temps avec son frère, et ça représentait ce que nous, on avait ressenti. Et donc ce matin-là, on a pu, vraiment chaque fils a pu appeler, puis on lui a passé le téléphone pour qu'il puisse communiquer, et on a vraiment eu la confirmation à nouveau qu'il savait où il allait. Et après, on a dû repartir, parce qu'on s'est engagé pour enseigner toute une semaine en Suisse, et donc Philippe a dit, c'est bon, j'ai ressenti ce que j'avais besoin, on y va. Et les médecins ont dit, on peut qu'attendre. Toute la semaine a découlé, et ce n'est pas facile, parce que nous, on a enseigné toute la semaine sur le cœur de père de Dieu, alors que le papa de Philippe était à l'hôpital. Et le cœur de père de vouloir transmettre, de vouloir aimer, de réconforter, d'être là. Et on a fait l'œuvre de Dieu, et il y a eu une grâce. Et je veux vraiment vous remercier, prendre cette occasion pour vous remercier pour vos prières, parce qu'on a vraiment senti le soutien de vos prières. C'était exceptionnel. Il y avait une autre dimension au niveau de l'onction, une autre dimension au niveau de l'enseignement et vraiment une paix qui demeurait. Et donc jeudi, on a eu un coup de fil et il s'est réveillé. Donc c'est là, on savait pas s'il allait se réveiller ou pas, mais on savait qu'on savait où il allait. Il s'est réveillé et donc on a pu finir. Donc jeudi, il parlait pas encore parce qu'il était encore intubé. Et vendredi, là, il a recommencé à parler, il a voulu parler, donc il est un peu arraché. Et donc samedi, on avait tous la possibilité, ses frères étaient disponibles. On a pris la voiture et donc avec ma belle-sœur qui attend un bébé, donc le premier petit boulanger, elle est enceinte de 5 mois, on a pu tous aller et le voir tous ensemble. Et c'était une si grande joie. Et à nouveau, de vive voix, il a confirmé à chacun de ses fils qui n'avait pas peur de la mort, qui savait où il irait, le jour où il partirait, et il nous a tous bénis. Mais quelle joie ! Mais vous savez, on peut voir les résultats de la prière, on peut revoir les résultats de déposer nos soucis au Seigneur lorsqu'on lui dépose et qu'on laisse vraiment entre ses mains. Dans le naturel, on ne pouvait rien faire. Et on avait pris des engagements et on devait les tenir. Mais la paix vient. Amen. Et la foi, parce que la paix et la foi sont liées. Et la foi produit des résultats. Donc je vais vous encourager, parce que ça, c'est tout frais. C'était la semaine dernière, c'est samedi la semaine dernière. Mais ce n'est pas pour vous dire, ah, regardez ce que Dieu a fait pour nous. Parce que si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire et il veut le faire pour vous. Donc ce n'est pas dire, ah oui, mais c'est Philippe et Rebecca. Non, rien à voir. On est enfants de Dieu, tout comme vous. Aux yeux de Dieu, on est tous ses enfants. Donc, comment savoir qu'est-ce que je médite ? C'est très simple. Méditation du problème, inquiétude. Méditation de la promesse, paix. Donc à vous de juger, et c'est un jauge assez facile à établir. Où est-ce que vous en êtes ? Êtes-vous dans la paix ou dans l'inquiétude ? Parce que imaginez un instant qu'au lieu de vous plonger dans vos soucis, dans votre inquiétude, vous vous plongez dans les promesses de Dieu. Que la nuit, tout comme il est écrit, il vous emmène dans ses verts pâturages, près des eaux paisibles. Pas que la nuit, mais tout au long de votre vie. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie même en abondance. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, mais là, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit qu'il est avec nous. Il dit son bâton et sa houlette, en psaume 23, nous rassurent. Mais on n'est pas obligé d'y rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Il nous appelle à traverser, n'est-ce pas? Tout comme sur la mer, il est dit, allez à l'autre côté, allez de l'autre bord. Et c'est ça qu'on a envie de vous transmettre ce matin. Médite la promesse et pas le problème. Vous allez trouver du repos pour vos âmes lorsque vous ferez ça. Et votre foi va à nouveau être agissante. Amen. Alléluia. Merci Père Céleste.